22 décembre, 19h38, très précisément. Un homme assez grand, plutôt séduisant, carrure athlétique, cheveux poivre et sel, yeux bleus, vêtu d'un costume de couleur sombre bien coupé, se tient devant nous. David se lève d'un bond, délaissant complètement la partie d'échecs qu'il était sans nul doute en train de gagner dans sa tête. « Didier ?» s'exclame Hélène. « Je peux savoir ce que tu fais là. » « Et qui est Didier ?»« Papa ?» s'étonnent David, Donovan et Maddy de manière quasiment synchrone. « Ok, j'ai compris. » Didier, s'il est le père des trois, est donc aussi logiquement l'ex-mari d'Hélène. En effet, la surprise doit être moyennement bonne, surtout pour Étienne.
Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je viens pour le mariage, j'ai reçu une invitation,
précise-t-il en sortant de sa poche un faire-part. Après Lise, l'ex-mari. Je fais évidemment tout de suite le lien avec le carnet d'adresses qui a servi de base à l'envoi des invitations. Comme c'est la stagiaire qui s'en est chargée et qu'elle n'avait aucune idée de qui était qui parmi les noms inscrits, les entrées « ancien mari » voire « amant » ou « ancien amant » n'ont pas pu être supprimées de la base de données. Maddy est pâle comme la mort. « Tu as reçu une invitation ?» s'étonne Hélène. « Je sais que j'ai la tête ailleurs en ce moment avec le concours et les mille choses à penser, mais si je suis bien certaine d'une chose... c'est que jamais je ne t'ai invitée à mon mariage, dit-elle tout en prenant la main d'Étienne dans la sienne.
C'est ma faute, maman,
pleurniche Maddy.
Ta faute? Tu veux dire que c'est toi qui as décidé d'inviter ton père? Non, pas du tout. Enfin, techniquement, oui, c'est moi qui l'ai invité, mais je n'en avais aucunement l'intention, je te le jure. Tu te souviens d'Elsa? La jeune fille qui a fait son stage de seconde avec moi. Comme j'étais totalement débordée, je lui ai demandé d'envoyer les faire-part.
Et donc, ton père était sur la liste, persiste Hélène.
Il n'y avait pas de liste. J'ai, disons, emprunté ton carnet d'adresses et j'ai dit à Elsa d'envoyer une invitation à chaque personne y figurant. Je n'ai pas du tout pensé, si j'avais su que la nouvelle adresse de papa y était inscrite. « Je suis vraiment, vraiment désolée, maman. Je suis une wedding planeuse déplorable. Promis, je ne m'occuperai pas de ton prochain mariage. »« Rassure-toi, ma chérie, je compte bien que celui qui aura lieu dans 2 jours soit le dernier. »
indique Hélène en serrant plus fermement la main d'Étienne. Didier, quant à lui, n'a pas bougé, probablement intimidé par Pilou qui, bien que remuant la queue, lui fait passer une inspection olfactive en règle.
« Nous avons donc l'explication, » dit Hélène. « Tu as reçu cette invitation par erreur. Je suis désolée que tu aies fait tout ce chemin pour rien, même si, entre nous, tu aurais pu te douter qu'au vu de notre histoire, il était étrange que je t'invite à mon mariage. »
Quand j'ai reçu le faire-part, bien entendu que je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur, mais j'ai choisi d'y voir un signe du destin. Je sais que j'ai merdé mon petit lutin, mais en réalité, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est fini avec Lolita. Je l'ai quittée. Alors je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Nous avons eu de bons moments tous les deux, non? Je suis certain que tu ne les as pas oubliés.
Pardon d'intervenir, toussote Étienne. Mais il est un peu tard pour ce genre de déclaration, non? Hélène et moi, nous nous aimons, et croyez-le ou non, j'ai la ferme intention de l'épouser dans 2 jours.
Écoutez, mon vieux, peut-être que vous l'aimez. Comment pourrait-il en aller autrement quand on la regarde? Mais moi, je suis le père de ses 3 enfants, et ça, ça compte.
Ne m'appelez pas mon vieux,
réplique sèchement Étienne en se levant brusquement.
Ne nous mêle pas à ça, papa,
ajoute David, dont le visage ne s'est pas détendu depuis l'arrivée de son père. Didier et Étienne s'affrontent du regard. J'ai l'impression de voir Marc Darcy et Daniel Cleaver s'embrouiller. Sauf que Didier est bien moins sexy qu'Hugh Grant. Et qu'il n'y a pas de fontaine. Dommage.
« Papa, s'il te plaît, ne fous pas tout en l'air, » lui demande Maddy. « Je sais que c'est ma faute pour le faire part, mais avoue que tu choisis mal ton moment quand même. Ça fait des années que tu es parti. Tu avais tout le temps pour réaliser avant aujourd'hui que tu t'es gouré, non ?»«
J'admets que j'aurais dû reprendre mes esprits plus tôt. Apprendre que tu allais te remarier, mon petit lutin... » agit comme un électrochoc. Et tant que tu n'auras pas dit oui à un autre, je ferai tout pour te convaincre que je suis l'homme de ta vie. »
Donovan est le premier à réagir à cette déclaration en éclatant de rire.
« Franchement, papa, c'est n'importe quoi, » dit-il. « Si tu crois être l'homme de sa vie, pardon, mais commence par ne pas la faire pleurer. »
Hélène, en effet, est au bord des larmes. Étienne ne lui a pas lâché la main.
« Je pense que tu en as assez fait pour ce soir, » enchaîne David. « Et comme il est évident que nous n'allons pas t'inviter à dîner, je te propose de t'en aller. »
Puis il se lève et, d'un geste que je devine ferme, il attrape le bras de son père, qui se laisse faire, pour le conduire jusqu'à la porte, avant de sortir avec lui.
« Maman, je suis tellement désolée !» dit aussitôt Maddy. « Je te jure que je ne savais pas qu'il allait recevoir une invitation. Tout est gâché, je m'en veux tellement !»
Maddy, habituellement si drôle, pleine d'ironie et de bonne humeur, est en pleurs.
« Je ne t'en veux pas, ma chérie !»
dit Hélène, d'une voix aussi blanche que la couleur de son teint.
« Je sais bien que tu n'aurais jamais de toi-même invité ton père. Pardon, mais je n'ai pas très faim. Je crois que je vais aller me coucher. »
ajoute-t-elle au bout de quelques secondes.
« Tout est prêt dans la cuisine. Vous n'avez plus qu'à vous servir. »
Il est près de 2 heures du matin. Malgré cela, je suis incapable de trouver le sommeil. Je me tourne et me retourne dans le lit et finis par m'emmêler dans le drap, ce que je déteste par-dessus tout. Le repas a été pour le moins morose. Maddy et Ludo n'ont finalement pas dîné avec nous. Sitôt Hélène montée se coucher, ma belle-sœur a préféré rentrer chez elle. Elle était bouleversée. Quant à David, Donovan, Anastasie et moi, après avoir chipoté la nourriture dans nos assiettes, le tout quasiment en silence, nous nous sommes rendus à l'évidence que la soirée était fichue et nous sommes tous montés dans nos chambres. David m'a à peine dit quelques mots. Je le savais très remonté contre son père, surtout vu la manière dont il avait quitté sa mère. Il ne s'est donc logiquement pas montré très bavard. Je sais seulement que Didier a réservé une chambre dans le seul hôtel de Santal et de Sapin, et que malgré les incitations fermes et sans ambiguïté de son fils, il n'a pas l'intention de ficher le camp avant le mariage. Même si David a eu des difficultés à s'endormir, il y est pourtant parvenu, lui, et le silence de la chambre n'est entrecoupé que par le bruit de sa respiration régulière, ainsi que par quelques gémissements par-ci par-là de Pilou, sans doute en train de vivre en rêve sa meilleure vie de monture pour Samantha. N'en pouvant plus de chercher le sommeil, probablement parti boire un coup avec sa meilleure ennemie, l'insomnie, je décide de me lever et d'aller me préparer une tisane. Pilou, qui ne devait dormir que d'un œil, en profite ni une ni deux pour sauter sur le lit et s'affaler de tout son long sur le matelas. Il colle son flanc contre David, lequel passe son bras autour de lui sans même réaliser, petite vexation, qu'il ne s'agit pas de moi. Je peux dire adieu à ma place pour la nuit. Je sais en effet depuis l'année dernière qu'un pilou installé sur le lit est un pilou impossible à déloger. J'enfile un sweat de David par-dessus ma nuisette pour avoir bien chaud et je quitte la chambre sans faire de bruit, ce qui est une précaution superflue dans la mesure où la discrète arrivée des pas moins de 50 kilos de pilou sur le matelas n'a même pas fait lever une paupière à mon cher et tendre. Dans la cuisine, la table du petit déjeuner pour le lendemain est déjà dressée. Nous tenions en effet à alléger la tâche d'Hélène, gageant que son humeur au réveil ne serait peut-être pas des meilleures. Parmi les nombreuses variétés de thé et d'infusions présentes dans le placard dédié, je choisis celle qui me parle le plus, un rooibos pecan pie, puis me dirige vers le salon avec la théière remplie et un mug en forme de sapin de Noël. Sans que ce soit une véritable surprise, j'aperçois Donovan installé sur l'une des chauffeuses, un plaid vaguement posé sur ses jambes. Pour l'avoir croisé également en pleine nuit l'année dernière, je le sais lui aussi sujet aux insomnies. De mon côté, je m'assois confortablement, les jambes bien recouvertes d'une douce couverture, le dos calé par des coussins, souffle sur mon breuvage bouillant afin de pouvoir en boire une gorgée avant de décider de rompre le silence.
Étrange soirée.
À qui le dis-tu ?
Tu as des contacts avec ton père ?
David n'est pas très bavard à ce sujet. Ce soir encore, je n'ai pas pu en tirer grand-chose.
C'est lui qui a trouvé maman en pleurs après son départ. Il rentrait du lycée et il l'a découverte assise par terre dans la cuisine. Notre père lui avait laissé une lettre pour l'informer qu'il la quittait.
Je l'ignorais.
David nous l'a raconté à Maddy et moi une fois maman montée se coucher. Il n'en a plus jamais reparlé ensuite.
J'ai eu quelques contacts avec mon père, oui. Du genre, un coup de fil pour mon anniversaire ou un texto de temps en temps. C'était bizarre. Je crois qu'il aurait voulu conserver un lien. Mais nous étions tellement en colère de voir notre mère malheureuse. J'avais 14 ans quand il est parti. Maddy est celle d'entre nous qui a gardé le plus de liens, je pense. Et encore, lien est un bien grand mot. Elle lui envoie une carte à Noël ainsi qu'à son anniversaire. Je suis sûre qu'elle s'en veut à mort de ne pas avoir contrôlé l'envoi des faire-part. C'est certain. Mais je ne pense pas que maman lui en tiendra rigueur. Elle sait très bien que Maddy n'aurait jamais fait sciemment quoi que ce soit pour bousiller le mariage. Elle est même celle qui n'a cessé de lui dire pendant des années qu'il fallait qu'elle tourne la page et qu'elle se trouve un nouvel amoureux. Je repense à la peine que j'ai lue sur le visage d'Hélène quand Didier est parti hier soir. Même si elle aime sincèrement Étienne, ça doit être difficile de voir ressurgir des années plus tard celui en qui elle avait confiance et qui l'a abandonnée comme une vieille chaussette de Noël. Un silence s'installe. Je bois ma tisane à petites gorgées. Donovan semble toujours perdu dans ses pensées. Tu crois qu'il est toujours possible de se faire pardonner du mal qu'on a fait? Je ne sais pas, sans doute. Mais à mon avis, même si ta mère pardonnait à ton père, je ne crois pas que ça aurait une quelconque influence sur son avenir avec Étienne. Il n'y a qu'à voir comment ces deux-là se regardent ou se prennent la main pour comprendre qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. Mais tu penses malgré tout que, même si on a été un gros nul à une époque, il est toujours possible de se rattraper. Je pose mon mug vide sur la table basse et prends le temps d'observer Donovan avant de répondre. Tu ne parles pas de ton père et d'Hélène, c'est ça? Non, répond-il après quelques instants d'hésitation. J'en étais sûre. Si la soirée n'avait pas été aussi pourrie, je sauterais sur le canapé pour faire une petite danse de la joie de celle qui a toujours raison. Lise, j'avais vu juste. Ça dépend, je dirais, du degré de nullitude dont on a fait preuve. Un degré élevé. Dans ce cas, probablement qu'il faudra donner un peu de sa personne pour obtenir un pardon. Je ne veux pas trahir Lise en informant Donovan qu'en réalité, elle a toujours des sentiments pour lui. Et que, même si elle lui en veut énormément, une partie de la bataille est déjà gagnée. Après tout, il faut qu'il se mette un peu en danger s'il compte effacer son ardoise. Je m'apprête à ajouter quelque chose quand, soudain, j'entends des bruits en provenance de la cuisine. « Tu as entendu ?» demandai-je à Donovan. « Tu crois que c'est un serial killer venu pour nous découper avec une hache ?»« Le sens de la mesure, toujours. » »« Tu lis trop de thrillers. Ça doit être Pilou qui est en train de fouiller dans les placards. »« Ah ah, vous allez enfin pouvoir me lâcher avec ces histoires de cookies disparus. » s'enthousiasme-t-il. Pilou est couché là-haut entouré du bras de David. « Ah, désolé de doucher ta joie. » Nous tendons l'oreille et de nouveaux bruits nous parviennent. Mon Dieu, j'ai peur. T'inquiète, je suis sûre que ça n'est pas un serial killer. Tu imagines un type venir faire un massacre à Santal et de Sapin? Non, c'est sans doute un chat qui a réussi à rentrer dans la maison. Ou un ours, ajoutai-je. Cette fois, Donovan éclate de rire. Aussitôt, je plaque ma main sur sa bouche. « Tu es fou, il va nous entendre. Tu n'as jamais vu de film d'horreur. Il ne faut pas se faire repérer si on veut éviter de se faire découper en rondelles. »« Ou bouffer par un ours, » se moque-t-il. « Je te propose d'aller voir de quoi il retourne afin que tu puisses tranquillement retourner te coucher avec David. » Pilou a piqué ma place dans le lit. « Là, je ne peux rien pour toi, hélas. » Donovan se lève et, nullement effrayé par l'ours probablement armé d'une tronçonneuse, se dirige vers la cuisine. Courageusement, je me place derrière lui et, une fois à proximité du plan de travail, j'attrape la première arme de défense qui me tombe sous la main, une cuillère en bois. Les bruits semblent s'être arrêtés, mais on entend une respiration en provenance de l'arrière-cuisine. Donovan s'approche de la porte qui mène, et alors qu'il l'ouvre, moi, cuillère tendue, les yeux fermés, je pousse un cri destiné à effrayer l'intrus. « Anastasie ?» s'étonne Donovan. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? »